avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, 8h40 en temps universel. Dans un instant, vos réactions sur le bras de fer que se livrent de plus en plus le continent africain et la Cour pénale internationale. On a envie de vous entendre. Nous vous donnerons la parole durant les 20 prochaines minutes. Mais d'abord, comme promis, Pierre Pinto du service Afrique des RFI est resté dans ce studio. Rebonjour Pierre.
Rebonjour Juan.
Et Romarie Lionel est toujours en ligne de Bangui en Centrafrique. Vous êtes avec nous, Romarie Lionel.
Oui, je suis avec vous, Juan.
Voilà, et vous avez une deuxième question concernant la situation sécuritaire dans votre pays.
Oui, la deuxième question. Un accord de paix a été... Un accord de désarmement a été signé en 2015 à Bangui. Oui. Et qu'est-ce qui empêche la mise en place de cet accord-là?
Oui, accord signé en mai 2015, il y a bientôt 2 ans, Pierre Pinto, qu'est-ce qui bloque?
Eh ben, d'abord le fait que très rapidement le FPRC de Noureddine Adam a dénoncé cet accord quelques jours après l'avoir signé, poussant d'ailleurs les partisans du texte au sein de ce mouvement vers d'autres mouvements issus de l'ex-Séléka. Alors depuis, les autorités et les partenaires internationaux de la Centrafrique ont négocié pied à pied pour faire venir tous les groupes armés autour de la table des discussions sur le DDR. À ce jour, 11 des 14 groupes armés qui existent en Centrafrique participent aux discussions dans le cadre d'un comité consultatif et de suivi mis en place par les autorités et la MINUSCA. Le FPRC n'en fait pas partie d'ailleurs et certains mouvements sont divisés sur cette question. Le MPC y est, mais sa branche politique et sa branche militaire ne se parlent presque plus. Le MPC politique négocie et le MPC militaire sur le terrain mène les combats avec le FPRC, notamment dans la Waka. On en parler avant le journal. Donc, pendant que ces combats font rage, en particulier donc dans cette zone de la Waka, des médiations extérieures se sont engagées à la fin de l'année dernière, sous l'égide de la CEAC, de la CIRGL, la Conférence des Grands Lacs, puis de l'Union africaine, pour tenter de ramener tout ce beau monde à la raison et d'abord de faire cesser ces combats. Mais c'est très laborieux. Pour l'instant, ça ne donne rien et les combats se poursuivent.
On l'a vu encore récemment. Justement, du côté de Bambari. Merci beaucoup, Pierre Pinto. Romarie Lionel, bonne journée à Bangui. D'ailleurs, vous qui nous écoutez dans la capitale centrafricaine, vous souhaitez commenter ces derniers affrontements particulièrement violents entre les deux factions rivales de l'ex-rébellion Séléka. N'hésitez pas à témoigner, à nous appeler. Nous vous donnerons la parole demain dans la libre antenne. Place maintenant à notre débat, à ce bras de fer qui n'en finit pas entre l'Afrique et la Cour pénale internationale. Il y a 2 semaines, on vous en parlait évidemment sur notre antenne. Lors du sommet de l'Union africaine, les chefs d'État ont entériné le principe d'un retrait collectif de la CPI. Vous savez que ces dernières années, plusieurs dirigeants africains ont accusé la Cour de ne poursuivre que des Africains. Certains ont brandi la menace de retirer leur pays. D'ailleurs, les présidents sud-africains et burundais ont franchi le pas. En tout cas, le principe d'un retrait collectif est loin de faire l'unanimité. Des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Nigeria s'y opposent fermement. On a vu cette semaine la décision du nouveau président gambien qui veut maintenir son pays au sein de la CPI, alors que son prédécesseur, rappelez-vous, avait adressé en novembre dernier un courrier à l'ONU pour signifier le retrait de la Gambie. Le dossier est clivant, le sujet suscite débat, il divise donc au sein même du continent africain. On en parle ensemble, 33 9 693 693 70. Vos réactions également sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission, j'en lirai quelques-unes tout à l'heure pour alimenter le débat et la réflexion. David, vous nous appelez du nord de la France, bonjour à vous.
Bonjour Juan.
Vous lancez le débat sur l'antenne des RFI et vous dites qu'il n'y a pas d'alternative à la Cour pénale internationale.
Je trouve pas, puisque ces chefs d'État, vous savez, le retrait à la CPI donnera libre cours à ces chefs d'État africains qui mènent la répression dans leur pays, et c'est un faux débat qu'ils engagent. Ils nous proposent quoi? Ils vont continuer à violer, à maltraiter, à torturer. Et Yahya Jammeh a fui, qui va répondre? Omar El-Béchir en train de courir, de se faire la place au soleil.
Le président soudanais.
Alors, soudanais. Donc, il y a trop de violence en Afrique. Alors, vous voyez que des chefs d'État, et pourquoi ça divise? Parce que Et il y a des présidents qui ont accédé au pouvoir de façon démocratique, qui gèrent tant bien que mal leur pays, où il n'y a pas trop de violence dans ces pays, ils ne s'inquiètent pas.
Ouais. Enfin, excusez-moi, vous dites, que propose, excusez-moi David, vous dites, que propose-t-il à la place, en tout cas dans les textes, il figure une cour africaine de justice et des droits de l'homme. Alors certes, elle n'a pas encore été ratifiée par suffisamment de pays pour qu'elle puisse véritablement exister, mais l'alternative, elle existe.
Non, mais sur le papier, pourquoi ça traîne des pieds? Mais parce qu'aujourd'hui, à l'Union africaine, vous avez un club de dirigeants qui sont là depuis 20, 30, 40 ans et qui continuent à réprimer, à violer des droits fondamentaux dans leur pays et qui s'inquiètent de rien. Blaise Compaoré a fui, Yahya Jammé a fui, Omar Béchir est là. Qui va répondre de tous ces crimes?
Ouais, enfin, en même temps, il ne faut pas généraliser. Je disais tout à l'heure que cette question divisée au sein même de l'Union africaine, j'ai cité des pays qui sont fermement opposés à un retrait de la Cour pénale internationale. Je parlais de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Nigeria. D'autres réfléchissent, comme le Liberia ou la Tanzanie. Les pays qui militent vraiment pour une sortie collective sont quand même minoritaires. Il y a l'Afrique du Sud, qui est passé à l'acte hein, à l'automne dernier, il y a l'Ouganda, on cite souvent le Zimbabwe, on dit que le prochain pays à adresser une lettre à l'ONU pour se retirer du statut de Rome, ce sera le Kenya. Donc voilà, mais en même temps, on ne peut pas généraliser, on ne peut pas dire que tous les chefs d'État africains souhaitent se retirer de la Cour pénale internationale. Marius, vous êtes à Douala, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour chers auditeurs du RFI.
Et contrairement à David à l'instant, vous dites qu'il faut absolument sortir de la CPI.
Cette décision viendrait même trop tard. Le président africain devrait le faire depuis très longtemps. Il est évident, il est presque évident que la CPI est daltonienne. On n'a pas besoin d'avoir plus de preuves. Et contrairement à ce que David, mon prédécesseur, disait, les exactions ne sont pas forcément, la CPI ne juge pas forcément des exactions commises dans les pays où ces présidents gouvernent. Même dans des zones, même dans des régions, on a pu le voir, certains chefs d'État européens, occidentaux, ont commis des exactions par des résolutions qui ont été signées. Le seul cas, peut-être, qu'on peut mettre à l'actif, c'est le cas de Slobodan Milošević, pour les raisons qu'on connaît.
Et ce n'était pas, Slobodan Milošević, ce n'était pas la Cour pénale internationale, c'était un tribunal spécial pour l'ex-Yougoslavie, hein, donc rien à voir avec la Cour pénale internationale. Mais quand vous dites que la CPI est une institution daltonienne, est-ce que vous pouvez développer?
Oui, mais puisque jusqu'ici, ce ne sont que des présidents africains, je veux dire africains noirs qui sont convoqués. Malgré qu'ils soient souvent même qu'ils bénéficient encore de l'immunité de leur statut. Donc on n'a pas revu d'autres présidents, je vais dire européens, occidentaux, ouais, qui aussi, au même titre que ces présidents africains, sans toutefois dédouaner ces présidents africains qui commettent des exactions.
Hein. Oui, excusez-moi, et en même temps, là aussi, il faut éviter de généraliser. Quand vous dites qu'ils ne poursuivent que des chefs d'État africains, il y en a deux véritablement dans le collimateur de la Cour pénale internationale. Il y a Omar El-Béchir, depuis de nombreuses années, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt, le président donc soudanais, et puis il y avait le président Kenyatta, le président kényan, qui dans un premier temps était dans le collimateur de la CPI, puis la CPI a finalement, faute de preuves, décidé de ne plus le poursuivre. Tous les autres Africains poursuivis, ce sont des chefs de rébellion, ce sont des gens qui ont du sang sur les mains.
Ce sont des personnes peut-être qui n'ont pas la légitimité du pouvoir, qui ont du sang sur les mains, mais je ne veux pas, malheureusement, je n'ai pas d'exemple parlant, c'est-à-dire faute de preuves, mais il y a beaucoup de chefs d'État africains ou de chefs de rébellion occidentaux qui pourraient être aussi poursuivis, c'est ce que je veux dire. Oui. Et quand on poursuit, vous parlez du président kényan qui est en exercice et qu'il soit poursuivi, c'est-à-dire, je crois quand même que le principe voudrait qu'on attende la fin de son mandat, quand il bénéficie de son immunité présidentielle, qu'on puisse le poursuivre.
Ouais. Et quand vous parlez des des autres chefs d'État occidentaux qui mériteraient eux aussi d'être poursuivis, il y a des noms qui reviennent très souvent sur la page Facebook de l'émission et même dans cette émission, on a déjà eu largement l'occasion d'en débattre ensemble. Il y a notamment George Bush pour l'intervention militaire des États-Unis en Irak après les fameuses armes de destruction massive qui n'ont jamais été trouvées. On va voir si Tierno a la même analyse, la même approche que vous. Tierno est à Ouagadougou. Bonjour Tierno.
Bonjour.
Bienvenue. L'Afrique doit-elle tourner le dos à la Cour pénale internationale?
Je ne pense pas. Je pense que c'est une utopie que de penser, parce que pour nous les citoyens, je pense qu'il faut cette cour pour dissuader tous nos chefs d'État qui ont des comportements déviants, parce que pour la simple raison, je me dis qu'un chef d'État, quand vous êtes élu, travaillez à respecter les droits de vos citoyens, vous n'aurez aucun problème à la fin de votre mandat, là, ce pays ne viendra jamais vous chercher. Mais si vous venez en tant que chef d'État, vous avez des comportements déviants, moi je pense que il faudra qu'il y ait cette pays pour dissuader tous ces chefs d'État qui ne veulent pas respecter les droits de leurs citoyens. C'est le vrai problème, parce qu'en Afrique, on a des chefs d'État qui finissent leur mandat, qui ne sont jamais inquiétés par la CPI. C'est parce que tout simplement, ils ont une bonne conduite. Alors, je pense que tous ceux qui veulent sortir de la CPI ont des choses à se reprocher. Et alors, les citoyens de ces pays devraient quand même, je pense, dire non à leur chef d'État. Parce que le fait de dire que oui, la CPI n'est juste que des présidents africains, moi, je pense que ça, c'est une fausse excuse. Un chef d'État africain, on ne lui demande pas d'être un tyran. Un chef d'État africain, on ne lui demande pas de bafouer les droits de ses citoyens. Il n'a qu'à avoir un bon comportement. Alors, il est élu pour un mandat peut-être de 5 ou bien de 6 ans. Il fait son mandat, il respecte le droit de ses citoyens et il n'aura aucun problème avec la CPI.
Je précise, parce que c'est important, sur les 9 enquêtes menées par la Cour pénale internationale, 8 concernent des pays africains et il n'y en a que 2 sur ces 8 qui ont été lancées après une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s'agit de la Libye et du Darfour. Sinon, pour les autres dossiers, les autres enquêtes sur le continent africain, ce sont les États eux-mêmes qui ont saisi la Cour pénale internationale en disant, voilà, nous n'avons pas les moyens et la possibilité de mener des enquêtes et de rendre justice, eh bien faites votre travail, vous, la Cour pénale internationale. Donc ce sont les chefs d'État eux-mêmes qui ont saisi la CPI, et c'est important de le rappeler, puisque souvent il y a confusion, il y a beaucoup d'amalgame sur cette question de droit international. Moussa sur Facebook nous dit, la CPI est un outil de persécution impérialiste en maintenant son pays dans la CPI. Adama Barrow, le président gambien, a manqué l'occasion d'entrer dans l'histoire. Mamat nous dit, il est vrai que la plupart de ceux qui comparaissent devant la CPI sont africains, mais cela n'écarte pas le fait qu'ils ont commis des crimes. Soutenir le retrait des pays africains, c'est se battre pour l'impunité. 33 9 693 693 70. Désiré, bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Paris, on vous écoute.
Oui, les pays africains se sont soumis au statut de la CPI de façon volontaire. Personne ne les y a obligés. Mm-hmm. Ça montre la légèreté avec laquelle ils vont signer des conventions. Il faut savoir ce que couvre une convention que vous signez. Alors, ils découvrent aujourd'hui que la CPI est contraignante dans son fonctionnement. Il y a peut-être des insuffisances dans le fonctionnement de la CPI. Mais ça peut être... C'est une institution qui est perfectible.
Enfin, en même temps, permettez-moi, Désiré, vous êtes un peu caricatural lorsque vous dites qu'ils découvrent aujourd'hui qu'il y a des contraintes. Ils se rendent compte depuis plusieurs années que la CPI ne poursuit que des Africains, en tout cas, n'a condamné à ce jour que des Africains. Donc ça, c'est un constat.
Oui, c'est un constat. Nous le constatons tous. Mais pourquoi il n'y a que des pays africains qui sont poursuivis? En Afrique, que se commettent les plus graves atteintes aux droits humains? Ce que disait l'auditeur précédent, là, pas avant moi, mais bien avant,
oui.
Quand vous remplissez votre mandat sans persécuter vos populations, personne ne viendra vous chercher. Pourquoi M. Macky Sall n'est pas poursuivi? Pourquoi M. Bouhari? Pourquoi? Il y a plusieurs présidents africains qui ne commettent pas d'exactions contre leur population. Parce que si on sort de ce statut, ce sera la prime à l'impunité, là.
Ouais.
Ouais. On va continuer à tuer à huis clos, c'est ça ce qu'ils veulent.
Il y a des enquêtes qui sont quand même menées ailleurs que sur le continent africain. D'ailleurs, Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, ne cesse de dire « c'est faux, nous ne poursuivons pas que des Africains ». Ces équipes mènent en ce moment des enquêtes préliminaires en Afghanistan, en Colombie, en Palestine, en Ukraine, des enquêtes préliminaires également sur l'intervention militaire britannique en Irak. Et depuis le mois d'octobre dernier, la CPI a demandé l'autorisation d'enquêter sur les crimes de guerre qui auraient été commis et qui ont été commis en Géorgie en 2008. Donc vous voyez, la CPI s'intéresse à d'autres parties du globe que le continent africain. 33 9 693 693 70. Tiens, Jules sur Facebook revient sur la décision d'Adama Barrow donc de maintenir la Gambie au sein de la CPI. Jules nous dit, Adama Barrow est l'otage de la communauté internationale qui lui dicte la ligne à suivre, sinon il sait très bien qu'on lui coupera le robinet. Tout dirigeant africain qui accède au pouvoir avec l'appui de la communauté internationale, quand bien même il est élu démocratiquement, eh bien ces dirigeants savent qu'ils sont vulnérables et donc tributaires de la communauté internationale. Pierre, vous êtes à Bujumbura.
Bonjour.
Bonjour Pierre, au Burundi. Le Burundi d'ailleurs qui a déjà lancé la procédure pour se retirer de la Cour pénale internationale.
Oui, le retrait du Burundi de la Cour pénale internationale, comme vous le disiez, Juan, est une décision très regrettable. D'ailleurs, pour nous, le Burundi a ouvert les portes à d'autres pays africains. Et c'est cela qui a fait que peut-être que d'autres pays pensent au retrait massif, parce qu'ils ont vu qu'un président peut signer le retrait de la Cour pénale internationale après avoir commis des crimes, après avoir tué des gens, après avoir torturé des gens, et qu'il reste au pouvoir. Donc, moi, je dis que ce retrait massif des autres pays peut être interprété comme une conséquence de l'inaction de la communauté internationale. Et pour moi, comme Burundi qui a assisté à des violences graves commises au Burundi, je dis que la communauté internationale, à commencer par la CPI, devrait ouvrir des poursuites contre les personnalités du Burundi, à commencer par le président lui-même, et des gens qui sont autour de lui parce que les non-poursuites ont encouragé le retrait des autres pays africains. Ouais.
Le président Nkurunziza et son régime, qui sont accusés par la communauté internationale de violation des droits de l'homme, en tout cas, il faut savoir que la procédure de retrait dure un an. Les Nations Unies vont examiner la demande de retrait du Burundi. Au final, évidemment, le Burundi étant un pays souverain, les Nations Unies ne peuvent que donner leur feu vert au départ de votre pays, mais en tout cas d'ici au retrait effectif de votre pays, les enquêtes vont se poursuivre et toutes les opérations judiciaires lancées restent en vigueur jusqu'au retrait effectif de votre pays. Donc les enquêtes pour l'instant vont pouvoir continuer. Élie, vous nous appelez d'Abidjan. Bonjour Élie.
Bonjour Juan.
La CPI est dissuasive, dites-vous.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, Juan, avec ce qui est passé dans mon pays en Côte d'Ivoire, donc il y a quelques années de cela, on a remarqué qu'en Afrique, il y a de plus en plus d'élections avec peu de, sinon presque plus de crise post-électorale. On a remarqué que maintenant, les gens, quand ils perdent les élections, ils reconnaissent, ils félicitent le gagnant, et puis les choses se passent beaucoup mieux qu'avant. Je pense que la CPI est quand même une sorte d'épée de Damoclès sur la tête de tous ces mauvais perdants et tous ces chefs d'État qui veulent s'accrocher et qui sont prêts à le faire au prix du sang de la population. Moi, ce que je veux dire, c'est que la CPI, en fait, c'est la terreur de qui ? C'est la terreur des chefs d'État qui ont des choses à se reprocher.
Mais vous croyez vraiment que c'est la terreur quand on voit le président soudanais Omar El-Béchir faire l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis de nombreuses années et il continue, malgré ce mandat, à narguer tout le monde en voyageant ? Alors certes, vous allez me dire, il choisit les pays où il se rend, des pays où il est sûr de ne pas être extradé, mais enfin, il nargue au nez à la barbe la procureure de la Cour pénale internationale en voyageant régulièrement.
Oui, mais c'est ce que je dis, Juan. Quand je dis que c'est une épée de Damoclès, c'est qu'à tout moment, ça peut lui tomber là-dessus. Là, aujourd'hui, il ne peut pas dire qu'il ignore ce demandeur d'arrêt-là. Il n'ignore pas du tout.
Bon.
Donc, il est obligé de vivre avec. Et quelque part, il est obligé d'adapter son attitude aujourd'hui avec, en fonction de ce mandat-là.
Bien
donc,
ça veut
dire que si il avait tendance à massacrer, c'est des choses qu'il va arrêter de faire, c'est sûr.
En tout cas, pour l'instant, ça ne semble pas impressionner énormément le président soudanais. Merci à vous, Élie. Désolé pour le réseau de téléphone, il n'était pas très bon. Merci à vous tous de votre fidélité. Demain, la Libre Antenne, vous pourrez, comme tous les vendredis, commenter l'actualité de votre choix. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire dès maintenant. Le standard reste ouvert, 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez vos réactions, vos commentaires.